Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Nathalie Hamard.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Vous le savez, nous vivons ensemble en ce mois d'août sur RFI le 60e des indépendances cet été, au cours duquel de nombreux pays d'Afrique s'affranchissent de la tutelle coloniale. Et en ce 5 août 1960, c'est Maurice Yaméogo qui pose la première pierre de l'histoire de la Haute Volta, futur Burkina Faso, en proclamant solennellement son indépendance au nom du droit à la liberté, l'égalité, la fraternité, en rendant hommage aussi au courage et à la lucidité du général de Gaulle. Alors de ces premiers pas de pays indépendants à la rupture de la révolution sankariste, des années Compaoré à l'insurrection de 2014, vous nous racontez ces 60 années. Évidemment, le nom, la figure de Thomas Sankara reviennent très souvent dans vos commentaires. Vous nous direz pourquoi. Vous nous direz aussi quels sont les défis qui restent à relever pour le Burkina Faso dans les prochaines décennies. 33 9 693 693 70. Vous continuez de nous appeler. Et pour nous accompagner ce matin, Basile Laetare-Guissou, bonjour.
Bonjour.
Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'RFI. Vous avez été à plusieurs reprises ministre, Basile Laetare-Guissou, sous la présidence de Thomas Sankara, notamment au portefeuille des relations extérieures et de la coopération. Vous êtes sociologue, ancien directeur du Centre national de la recherche scientifique et technique. En ligne également, Seydou Ouédraogo, bonjour à vous.
Bonjour.
Enseignant, chercheur à l'université de Ouagadougou et président de l'Institut d'études économiques Free Afrique. Alors Basile Guissou, on a entendu ce matin sur RFI les archives sonores de ce 5 août 60, la voix de Maurice Yaméogo proclamant l'indépendance. Vous étiez encore enfant. Avez-vous gardé un souvenir, une image de cette journée?
Non, j'avais 11 ans. Franchement, je n'en garde pas grand-chose, sinon que bon... Souvenant ce que je vivais à Bobo-Dioulasso avec mon père et mes frères et sœurs, et nous avons un peu on a senti ça de loin, quoi, parce que c'est à Ouaga que les choses se passaient.
Voilà. Ça a été une première présidence, celle de Maurice Yaméogo, plutôt agitée comme dans d'autres pays. D'ailleurs, cette période qui suit la proclamation de l'indépendance, elle est marquée par des réformes, elle est marquée par des mouvements de protestation dans les années qui suivent ce 5 août 60.
Oui, disons que bon, à l'heure des charges, il faut reconnaître que c'était la première fois que une élite politique s'exerçait au pouvoir, à la construction d'un État post-colonial. Donc, les dérapages étaient pratiquement inévitables. Il y en a qui ont pu être contenus, il y en a qui n'ont pas pu être contenus. C'est notamment la décision de réduire les salaires des fonctionnaires à un moment où bon, on pense que les dirigeants avaient un train de vie totalement au-dessus des moyens réels de l'État.
Mmh. Vous me parliez en préparant cette émission d'un certain voyage de noces qui avait un peu ému à cette époque, un voyage de noces du président Yaméogo, suivi d'annonces un peu dures sur la réduction des salaires.
Non, mais écoutez, quand on dit que votre président a été pour regarder un match de football au Brésil à 50 millions de francs CFA en 1965, ça provoque forcément des remous.
Alors, ce dont se souvient le premier auditeur que l'on va prendre en ligne, c'est de ce qui se passe le 3 janvier 1966. Bonjour Eric.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous êtes à Ouagadougou. Pour vous, ce 3 janvier, c'est vraiment la première date qui compte pour les Burkinabés. On vous écoute.
Oui, en tout cas, de mon point de vue, c'est la première date qui compte parce que, comme vient de le dire Basile tout de suite, le premier président, en tout cas, s'est mis dans une veste de dictateur et en même temps, c'était en tout cas arrogé des prérogatives importantes en brimant le peuple avec la réduction du pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, naturellement, le 3 janvier 66, nous avons eu un soulèvement populaire assez historique, même au niveau de l'Afrique. C'est la première fois que le peuple burkinabé a honoré, en tout cas, du moins c'est juste au lendemain des indépendances, décidé de prendre en main sa destinée à travers cette révolution. Et c'était la preuve aussi que ce peuple, en tout cas, aspirait dès le début à la démocratie, à une gouvernance vertueuse pour le pays. Mmh. Voilà. Donc moi, cette date me reste en tout cas en mémoire, même si je n'étais pas encore né à l'époque.
Voilà, 3 janvier donc 66, ça conduit effectivement à la chute du président Yamé Ogo et la prise de pouvoir du colonel Sangoulé Lamizana. Seydou Ouédraogo, c'est le début d'une série de soulèvements, on peut le dire que c'est dans la culture politique de ce pays.
Disons que on ne peut que mettre en écho l'insurrection populaire de janvier 66 avec celle d'octobre 2014, et parce que c'est les mêmes modalités de rupture avec un pouvoir, c'est les mêmes modalités qui ont conduit au départ de Maurice Yamniogo et de Blaise Compaoré. Une autre similitude, c'est que c'est aussi le courroux des politiciens, des populations, des syndicats qui ont fait partir ces deux présidents. Et c'est la même Assemblée nationale, les mêmes lieux qui ont été saccagés en 66 qui l'ont été en 2014. Il y avait une fixation en 66 autour de la figure du jeune frère du président Maurice Yamniogo, M. Denis Yamniogo. C'est la même fixation qu'on a connue autour de François Compaoré en 2014. C'est la même place de la nation qui a vu l'armée
de Blaise Compaoré plutôt. Oui.
Pardon, de Blaise Compaoré, merci. Et c'est la même place de la nation qui a vu partir Maurice Yamniogo et prendre l'armée, prendre le pouvoir en 66. C'est cette même place de la nation, place de la révolution à l'époque, qui a vu également un militaire s'emparer du pouvoir après l'insurrection de 2014.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne va pas en déduire pour autant que le pays n'a pas bougé. On va revenir dans un instant à la période de Thomas Sankara. Évidemment, les choses ont évolué pendant ces 60 ans.
Bien entendu, les choses ont évolué, il y a eu des avancées importantes sur plusieurs plans, mais ce que je veux indiquer, c'est que ces deux dates montrent l'attachement, comme l'a dit Eric à l'instant, l'attachement du peuple burkinabé aux libertés, à la question de la démocratie. Et c'est ce qu'on peut indiquer à travers ces deux dates.
Basile Laïterre-Guissou, c'est aussi votre constat, c'est un attachement particulier de ce peuple burkinabé à la démocratie, à la liberté d'expression aussi.
Je dirais la liberté tout court. Et je crois que c'est l'histoire même de ce pays est une fresque suffisamment riche qui montre que chaque fois que des besoins entre 1932 et 1947, ce territoire colonial de l'époque avait été supprimé de la carte. Et c'est l'esprit national, la volonté de vivre ensemble qui a prévalu, qui a mené le combat pendant 15 ans pour la reconstitution de ce pays-là, le 4 septembre 1947. Voilà. Donc c'est un esprit de lutte qui a toujours habité notre peuple.
Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Ouaga également et vous nous dites, vous, que la vraie indépendance du Burkina Faso, ça a été la révolution conduite par Thomas Sankara. Expliquez-nous pourquoi.
Tout à fait, parce que bon, pour nous, hein, ma relative jeunesse m'empêche de parler vraiment en profondeur des années 60, même si on a lu. Mais ce que je peux dire, c'est que on a constaté que 1960 jusqu'aux années 80, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir ont essayé de vivre un peu comme le colon. C'était une période assez statique. Il n'y a pas eu vraiment de décision politique courageuse, mais c'est à partir des années 80, avec l'arrivée de Thomas Sankara au pouvoir, qu'il y a eu vraiment une révolution. Parce que le peuple burkinabé a essayé de mettre en place les jalons pour le développement. On peut citer entre autres la politique de la femme, la politique du développement en général, la politique économique. C'est dans ces années-là que le peuple burkinabé a retrouvé sa fierté et on a changé le nom du pays. C'est un événement assez important. Mm-hmm. D'ailleurs, je suis content de savoir que le tonton Guissou est en ligne aussi et il pourra vous parler davantage de ces années-là qui ont vraiment aujourd'hui qui marquent vraiment le Burkina Faso d'une pierre vraiment blanche.
Basile Laïterre-Guissou, c'est vrai que vous avez vécu de l'intérieur hein, ces années Sankara en tant que ministre à plusieurs reprises, on l'a dit. Qu'est-ce qui déjà dans la pratique du pouvoir distinguait cette présidence Sankara de celles qui ont précédé et peut-être de celles qui ont suivi aussi?
Écoutez, je pense que concernant le président Sankara, ce n'est pas 83 que les choses ont commencé. Le concernant lui précisément, il a été ministre de l'information.
Évidemment.
Avant ça.
Évidemment.
Et il allait prendre fonction à bicyclette, donc dans l'indignation générale. Après, il a été Premier ministre et son premier discours, c'était pour dire au gouvernement ce que veut dire le mot ministre. Et l'humilité, la simplicité, le respect du peuple, des biens du peuple, du bien commun, etc. etc. Donc, avant le 4 août 83, je crois que Sankara avait déjà sonné le tocsin, quoi.
Mmh. Et entre 83 et 87, cette méthode, ce mode de gouvernance, de pratique du pouvoir de Thomas Sankara, évidemment, se confirme et s'amplifie même peut-être.
Absolument, puisque de toute façon, il n'avait pas les leviers du pouvoir. Il l'a eu qu'en 83, le 4 août 83, et là, il a exposé clairement sa vision politique à travers le discours d'orientation politique pour dire où il allait et comment il comptait s'y rendre. Et effectivement, automatiquement, il a prévu l'hostilité qui allait s'élever en face, et il a donné les moyens aussi à certains moments de devoir utiliser le bâton et la carotte en même temps.
Voilà. Mmh, mmh. Seydou Ouédraogo, on entendait Jean-Baptiste nous dire tout à l'heure qu'il était peut-être un peu jeune pour avoir connu véritablement cette époque Sankara, mais que manifestement elle l'avait marqué. Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu une sorte de figure tutélaire pour les Burkinabés, mais même au-delà, pour le continent africain? On l'a un peu évoqué avec Basile Laïtaréguissou, mais vous, qu'en dites-vous?
En réalité, je suis également probablement autant jeune que Jean-Baptiste, donc j'ai pas connu ça physiquement. Par contre, la parole du chercheur est celle-ci. Je crois que Sankara, c'était la vertu au pouvoir. C'était profondément l'exemplarité. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas trompé, mais personne ne peut remettre en cause sa bonne foi et son dévouement total pour son peuple. Mmh. Je pense que ça séduit. Quand vous avez un président qui, à l'époque, a son bulletin de salaire qui est public, qui a un bulletin de salaire qui a moins de 300 euros au mois et qui a vraiment pas de dessous de table ailleurs, c'est vraiment cela. Il n'a laissé aucune fortune. Quand le président Sankara a été assassiné, la maison dans laquelle il appartenait, il l'achetait en location-vente. Il n'avait pas fini de la payer pendant qu'il a été président pendant 4 ans. Mmh. Le président Sankara, c'était une sorte de fusion totale entre la parole et l'action, sur un continent où la démagogie régnait, mais aussi dans un monde où les politiques publiques ont souvent été portées par la vertu. Mmh. Donc ça faisait donc la jeunesse africaine, c'était un président tout jeune, il est arrivé au pouvoir à 33 ans, avec sa fougue, avec sa pédagogie, avec son verbe, son érudition, et puis sa vertu. Je pense que tout ça fait que les jeunes Africains, mais aussi dans le monde, les Palestiniens, les Noirs à Harlem, y compris en Europe, les altermondialistes aujourd'hui, reconnaissent dans sa parole, les féministes, et reconnaissent dans sa parole pionnière, dans sa parole forte.
Et c'est vrai que sur Facebook, Seyni Ketawaga nous dit « Sankara a inscrit le nom du Burkina Faso partout dans le monde, 37 ans après, lui et ses compagnons continuent d'inspirer des millions de jeunes ».
En réalité, je crois que Sankara, c'est le père de la nation. Les pères de la nation en Afrique sont arrivés avec les indépendances, mais en réalité, la personnalité qui met effectivement le Burkina sur une carte dans le monde, la personnalité qui rebaptise le pays, et pas juste un baptême juste de nom, c'est vraiment un baptême qui a eu un sens en termes de vision, c'est le président Sankara. C'est lui qui permet de faire en sorte que la Haute Volta, le Burkina Faso, cesse d'être l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire que le projet colonial avait fabriqué en l'arrimant à l'économie côtière. C'est Sankara qui donne effectivement cette personnalité.
Alors justement, il y a aussi, Seydou Ouédraogo, cette idée que chacun pourra, ou en tout cas doit, bénéficier des fruits du développement.
Absolument. Une chose absolument importante chez le président Sankara, quand on étudie ses politiques économiques et sociales, c'est la priorité donnée aux majorités, en particulier les majorités des campagnes. Il expliquait que l'enjeu, c'était pas le champagne pour quelques-uns, mais plutôt l'eau potable pour la majorité. Mmh. C'était vraiment quelque chose de très symbolique. Les progrès les plus importants ont été enregistrés en faveur des majorités populaires, en faveur du monde rural, mais aussi en faveur des petites classes moyennes, comme les petits fonctionnaires qui ont pu avoir leur logement en location-vente à coût modéré, à Ouagadougou, comme à l'intérieur des villes secondaires du pays. Mmh. Donc c'était une vision portée vers les majorités.
Basile Laïtaréguissou, cette référence à Thomas Sankara, elle a été présente aussi dans l'insurrection de 2014, mais entre-temps, on peut dire que entre son assassinat et la chute de Blaise Compaoré, son nom était, on va dire, couvert d'une chape de plomb, hein, dans le Burkina de ces années-là.
Oui, c'était une tentative, mais malheureusement qui fut vaine, parce que quand vous regardez même à l'époque, sur les mobilettes de la majorité de la population, les vélos et les mobilettes, il y avait son effigie qui était là, sur les camions de transport en commun, etc., etc., même si la presse officielle essayait plus ou moins de toucher sa marque. Ça n'a pas été possible. Je pense que ça a même été contre-productif parce que ça a donné plus de poids à ses paroles, à ses discours. Quand vous prenez son discours du 4 octobre 1984 aux Nations Unies, c'est vraiment une fresque mondiale de l'inégalité, des inégalités, des injustices. Et la nécessité du combat quand il dit que les gifles doivent cesser parce qu'on ne tendra plus l'autre jour. Je pense que ça, c'est poignant. Ça. Toute conscience responsable se sent interpellée.
Mmh. Voilà. Et à ce jour, évidemment, la vérité n'est toujours pas faite, hein, sur cet assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Casimir, bonjour.
Oui, bonjour Nathalie.
Merci d'être avec nous, vous êtes à Bobo-Dioulasso et vous dites-vous que vous êtes un pur produit de la période Sankara parce que vous avez bénéficié de sa politique d'éducation.
Oui, je dirais même plus, je réclame le fait d'être un enfant de Sankara. J'ai bénéficié de sa politique qui nous a permis d'être réellement indépendants. Ce n'est que sous Sankara que le Burkina a connu l'indépendance réelle parce que le Burkina s'appuyait sur sa politique intérieure pour son développement sans rendre compte à qui que ce soit à l'extérieur, ni à la Côte d'Ivoire, ni à la France. Voilà.
Voilà, donc investissement dans l'éducation que vous avez pratiqué donc au quotidien. Vous dites clairement que vous ne seriez pas allé à l'école sans la politique menée par Thomas Sankara.
Bien sûr. Grâce à Sankara, le taux de scolarisation a été relevé. Grâce à Sankara, beaucoup d'écoles ont été construites. Grâce à Sankara, nous, les enfants des pauvres, nous sommes allés à l'école. Et à l'époque, on payait à peine 30 francs français pour aller à l'école. Imaginez, 3 000 francs. Moi, par exemple, j'ai payé 3 000 francs pendant au moins 3 années pour, comme scolarité. Et je bénéficiais même de la bourse pour pouvoir étudier. Donc, sans Sankara, ce n'est pas évident que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je ne peux pas ne pas reconnaître que c'est sous lui que l'école a connu un boom au niveau du Burkina.
Merci, merci Casimir pour votre témoignage. Basile Laïterre-Guissou, comment s'est poursuivie cette politique en faveur de l'éducation après la mort de Sankara? Qu'est-ce qu'elle est devenue?
Écoutez, avant le 15 octobre, le Burkina avait déjà multiplié par deux le taux de scolarisation. On était à 16% en 83. Et en 83, en 87, on était déjà à 34%. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis content de constater que c'est 125 805 candidats qui vont au baccalauréat cette année, en 2020, au Burkina Faso. Et je le répète, on a fait du quantitatif. De l'école primaire au secondaire jusqu'au supérieur, on a fait du quantitatif. Malheureusement, le document qui s'appelle intitulé « L'école révolutionnaire » qui a été écrit sous la Révolution n'a jamais pu être appliqué à cause des réticences à l'intérieur même du système à l'époque parce que effectivement on touchait à la langue française qui est un monstre sacré pour toutes les élites politiques.
Oui. Vous, très rapidement, on en est resté quasiment au contenu de l'époque coloniale dans l'éducation au Burkina ?
Absolument, absolument. C'est l'élitisme.
À cette école, qui fabriquait les auxiliaires de l'administration coloniale. Ça n'a pas beaucoup bougé pour vous en termes de contenu depuis.
Je vous disais tantôt que dans mon village, quand une jeune fille doit se marier, on lui demande, mais tu te maries avec celui qui a le silobi ou bien c'est celui qui a la daba sur l'épaule? Silobi, ça veut dire celui qui écrit le français.
Voilà. Merci, Basile Laïterre-Guissou. Vous restez avec nous, Seydou et Draogo aussi. On marque une pause pour prendre les dernières infos de l'Afrique et puis on se retrouve après le journal. À tout de suite.